La plume. Le bulletin du centre de sauvegarde de la faune sauvage Cossenard, basé à Millau. Avec aujourd'hui, Cassandra et Hélène qui vont nous faire découvrir ce centre de sauvegarde. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un centre de sauvegarde ?
Alors, un centre de sauvegarde, c'est une structure classée pour l'environnement qui fonctionne dans le cadre d'un arrêté préfectoral. Donc, le but d'un centre de sauvegarde, c'est de recueillir des animaux blessés ou en difficulté pour les relâcher dans leur milieu naturel. Donc, ces centres de sauvegarde, ils peuvent être gérés par des associations, comme c'est le cas pour le centre de Millau. Mais ça peut aussi être géré par un parc naturel régional ou par l'ONF, par des parcs animaliers, des voleries. En France, il y a une quarantaine de centres et tous fonctionnent différemment.
40 centres, donc, il n'y en a pas un par département ?
Non.
D'accord. Et le principe du fonctionnement, c'est ? Accueillir des animaux sauvages, c'est
voilà,
ça
accueil.
Des animaux blessés.
Voilà, ou blessés ou en difficulté. C'est-à-dire qu'on reçoit aussi beaucoup d'animaux qui n'ont pas de blessures, mais qui ont été ramassés, comme c'est le cas des jeunes, genre les jeunes chouettes ou hiboux, qui sont ramassés et qui n'ont aucune blessure, mais qui ont besoin du coup d'être élevés pour être relâchés. Le but, c'est de relâcher les animaux dans leur milieu naturel.
Voilà, c'est pas du tout un parc animalier ou un zoo.
Pas du tout.
Ouais, c'est vraiment pour après les...
Pour les relâcher, c'est le...
Voilà, les sauvegarder et les remettre dans leur milieu naturel. Cassandra, tu veux rajouter quelque chose ?
Alors oui, les animaux surtout qui sont accueillis au centre de sauvegarde, en tout cas le nôtre, sont principalement les oiseaux et les petits mammifères donc de la France métropolitaine. Donc c'est vrai qu'on va recevoir principalement dans les espèces, surtout des buses, des faucons, des hérissons, des écureuils, ce genre d'animaux.
D'accord. Et comment, à quoi ressemble une journée type ? Par exemple, on arrive le matin chez vous, vous arrivez dans votre centre, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, les journées types, en fait, ça dépend des saisons. En hiver, on reçoit beaucoup moins d'animaux et donc on commence tous les jours par faire le nourrissage. On fait les nourrissages à heure fixe pour éviter de stresser les animaux. Ils ont l'habitude comme ça, que ce soit toujours au même moment. On ne rentre pas dans les volières à d'autres moments. Donc en hiver, on fait le nourrissage, les soins quotidiens, ça peut prendre une heure ou deux. Et en fait, tout le reste de la journée, on travaille sur l'administratif, parce que on est une association, donc on fait toutes les recherches de financement. Et après, comme on travaille avec des espèces protégées, on a une réglementation très stricte et qui demande aussi beaucoup de travail. On doit donner des bilans annuels, remplir des registres, tout ça. Donc l'hiver, on fait beaucoup d'administratif et aussi de... rénovation, des travaux d'entretien, des volières et tout ça. Alors qu'en été, on reçoit beaucoup, beaucoup d'animaux. Et là, on passe toutes nos journées à faire du soin et du nourrissage. Pour donner une idée, en hiver, on doit recevoir un ou deux animaux par semaine. Alors qu'en été, on peut en recevoir 5 à 10 par jour.
Alors j'ai deux questions. Le nourrissage, ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que vous donnez à manger à ces animaux blessés ? Alors pour l'avoir vu, c'est assez impressionnant.
Alors, les animaux blessés vont être nourris avec, en général, des poussins.
Des poussins morts.
Des poussins morts.
Que vous donne...
Alors, qui nous sont livrés directement.
D'accord.
En fait, ça va être, finalement, avec ce même type de poussins que sont, entre guillemets, ravitaillés, tous les centres de sauvegarde et les parcs animaliers aussi, quand ils ont des oiseaux.
D'accord.
Voilà. En principal, c'est ça. Après, sinon, nous, on va donner aussi des souris. Donc... justement, par exemple, pour les jeunes, ça va les aider à identifier la nourriture naturelle. Donc, au bout d'un moment, on va leur donner des proies vivantes pour qu'ils puissent apprendre à chasser.
Pour tout ce qui est rapaces, par exemple.
Pour les rapaces, ça, principalement.
D'accord.
Oui.
Et ils sont hébergés dans d'immenses volières.
Alors, on a plusieurs types de structures. On a des petits box d'accueil. Donc, tous les animaux qui arrivent au centre, ils passent par ces box d'accueil qui sont petits et sombres parce que les animaux qui arrivent, ils sont très stressés. Si on les met en volière, ils vont s'agiter, essayer de s'enfuir et se blesser encore plus. Donc ils sont mis dans ces box et ils y restent tant qu'ils ont des soins quotidiens pour qu'on n'ait pas à leur courir après pour les attraper et pour les soins. Et ensuite, on a des volières de transition un petit peu plus grandes et ensuite des volières de...
de réhabilitation.
De réhabilitation. Et ce sont des volières adaptées aussi bien aux vautours qu'aux mulots ? ou à la taupe, ou à l'hérisson. Je veux dire, c'est des cages immenses.
Les volières vont être adaptées à la taille des animaux. Par exemple, ce sont très souvent des structures réglementées aussi. Donc, par exemple, pour des hérissons, ça va être un mètre sur un mètre, je crois.
D'accord. Ah.
Voilà. Pour des hérissons, alors qu'effectivement, pour des oiseaux, ben, on va avoir des volières beaucoup plus grandes. Quoi.
C'est quoi le plus grand type d'oiseau, de rapace que vous avez pu héberger?
Ben, c'est les vautours.
Les vautours, donc là, il vous faut quelque chose d'immense. Là.
Oui. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête.
D'accord.
Mais...
Et c'est quoi qui cause toutes ces blessures aux animaux? C'est quoi le plus grand type de cause? C'est les chasseurs? C'est les voitures?
La plus grande cause d'arrivée d'un animal, ça va être le ramassage des jeunes. Donc, c'est à peu près 46% des arrivées dans un centre de sauvegarde. Tout simplement parce que, comme on disait avec les chouettes et hiboux, en général, les gens pensent qu'ils sont abandonnés ou blessés, alors que ce sont juste Voilà, pour les chouettes, c'est dans leur biologie d'essayer de quitter le nid précocement.
Donc, il ne faudrait pas les ramasser.
Donc, le but, ce serait de ne pas les ramasser, de les mettre en hauteur, effectivement. Mais bon, la plupart des gens ne le savent pas, prennent l'animal avant, et après, c'est trop tard. Donc, on les amène. Après, ça va être les chocs routiers, la deuxième cause.
D'accord.
Souvent. Ensuite, on va avoir d'autres causes d'arrivée, comme les chocs avec des objets fixes, les électrisations, des pièges, du braconnage et de la prédation.
D'accord. Et les chasseurs, non? Des fois, qui blessent avec des plombs
Si, ça, on a quelques... Pas très souvent, en tout cas, mais on en a de temps en temps, oui.
Maintenant, les chasseurs ne tirent plus sur les rapaces.
Bah, pour détecter les tirs des chasseurs, il faudrait faire des radios systématiques. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Mais il y a effectivement des centres de sauvegarde où des radios sont faites systématiquement et où le pourcentage d'entrées pour braconnage sont plus importantes que chez nous. Nous, ça doit représenter 1% parce qu'on ne peut pas le vérifier.
D'accord. Et quel est l'intérêt de sauver un animal sauvage qui a été heurté par une voiture, par exemple, ou blessé par un grillage?
Alors, moi, mon avis, c'est que... Là, on peut pas parler, parce qu'on nous parle souvent de « c'est la sélection naturelle ».
Oui.
Alors, pour moi, on peut pas parler de sélection naturelle dans le cas des animaux que nous recevons, parce que comme on vient de le dire, 99% des cas, ce sont des animaux victimes de l'activité humaine. Du coup, les seules causes d'accueil qui sont pas liées aux activités humaines, il y a à la limite la prédation, mais même là encore, c'est par les chats et les chiens, donc c'est des animaux domestiques. Et on peut avoir de temps en temps un cas de malformation, mais très rare, c'est même pas un cas par an. Mais sinon, tout le reste, c'est lié à l'activité humaine. Donc voilà, à mon avis, à partir du moment où l'homme a un impact négatif sur l'environnement, il est normal qu'on essaye de compenser ce...
Et pour soigner les animaux, vous avez des vétérinaires qui travaillent avec vous? Comment ça se passe? Parce qu'il faut... On ne soigne pas n'importe comment. J'imagine que vous le faites très bien. J'en suis sûr même.
Bon, on a un partenariat avec une clinique vétérinaire à Millau, la clinique vétérinaire des Acanthes. On en profite pour les remercier. Donc ils ne nous font pas payer les consultations, ils nous font payer donc, les radios, les médicaments, ce qui leur coûte à eux de l'argent, évidemment. Et donc, oui, c'est quand même nécessaire de travailler avec des vétérinaires, parce que nous, en gros, c'est comme si c'était les médecins et puis nous, les infirmières, quoi.
D'accord. Et vous leur amenez l'animal blessé ou ceux qui viennent sur place?
Alors, du coup, on va essayer de voir à quel moment on a besoin de contacter un vétérinaire. Et donc, on va prendre rendez-vous et on va leur apporter l'animal.
D'accord. Si j'ai un chien ou un chat qui a été cogné par une voiture, je ne vous l'amène surtout pas.
Ben non, on ne pourra pas le prendre.
Non, on ne récupère effectivement que les animaux sauvages.
Et si c'est un chien sauvage ou un chat
Ça reste un animal domestique
qu'on amène donc plutôt chez le vétérinaire.
Voilà.
Donc vous avez dit tout à l'heure, si on trouve un animal, je pense souvent à ces petites chouettes chevêches blanches là, qu'on voit au bas des arbres, ne surtout pas les toucher.
Alors il ne faut pas les prendre, non. Alors après on peut les toucher. Ça, alors le mythe de ne pas toucher un poussin parce que les parents vont le rejeter, c'est un mythe. C'est
que pour les mammifères.
Que pour les mammifères.
Voilà. Donc on peut le toucher s'il est en danger, s'il est sur la route par exemple, il ne faut pas le laisser sur la route. On peut le décaler à l'abri, on peut le poser en haut d'un tas de bois, sur une branche. S'il y a des chiens, on peut le mettre en hauteur. mais il faut pas le récupérer.
D'accord.
Parce que les parents sont autour, en fait. Sauf que les parents, ils ont eu le temps de se cacher, et le pauvre poussin, lui...
D'accord. Et le fait que sur le poussin, il y ait l'odeur humaine ne va pas repousser les parents?
Non.
D'accord. Ça permet quand même de...
Non, même un oiseau, en fait, une petite chouette ou un petit bout qui a été ramassé, si on le replace moins de 24 heures après, nous, il y a des gens qui nous appellent, qui nous disent « je l'ai récupéré, qu'est-ce que je fais ?» On leur demande depuis combien de temps ça fait, et si c'est pas loin de chez eux, ils vont le replacer directement sur place, et ça marche, les parents reviennent. Le soir, à la tombée de la nuit, c'est bon, les parents les reprennent.
Et il me semblait voir sur votre site internet que tout ça était spécifié, non ?
Voilà, on a effectivement notre site internet où il y a pas mal d'informations. Donc il y a une rubrique « J'ai trouvé un animal sauvage, que faire ?» Et là, on a catégorisé chaque geste à adopter quand on trouve un animal.
On peut avoir les références du site ?
Alors le site internet s'appelle centre-secours-faune-sauvage-millau.fr.
D'accord. Et si je trouve un animal blessé, est-ce que je peux moi essayer de le sauver ? Est-ce que je vais y arriver ?
Alors, c'est très délicat parce que la plupart des animaux sont des animaux d'espèces protégées. Donc, les particuliers n'ont pas le droit de les garder chez eux. Voilà, donc il faut avoir un certificat de capacité. Et ça, c'est relié avec les structures, donc les centres de sauvegarde.
D'accord.
Donc, il faut effectivement contacter le centre de sauvegarde le plus proche de chez soi. Parce que nous, on peut administrer les soins adaptés, effectivement, appeler un vétérinaire pour de l'aide. Et bon, on va donner les meilleurs soins possibles pour relâcher cet animal.
Quel est le secteur que couvre le centre sauvegarde de Millau ? Par exemple, si on est dans le Tarn ou en Lozère, on s'adresse à Millau ?
Oui.
Et dans les Rhônes ?
Alors, dans le Tarn, il y a un autre centre de sauvegarde, mais qui prend que les oiseaux, donc pas les mammifères. Après, en Lozère, il n'y a pas de centre. Dans le Lot, il y en a un autre... Il y en a deux dans l'Hérault, par contre.
D'accord.
Il y en a deux dans l'Hérault.
Ouais. Vous rencontrez de temps en temps avec ces centres et vous faites le point ? Pas spécialement ?
Non, très peu.
D'accord. Avant de faire une pause musicale, j'ai une petite question qui me taraude. Est-ce que vous donnez un nom à ces animaux que vous mettez dans vos volières,
hein ? Alors, pas du tout, parce qu'effectivement, ce sont des animaux sauvages qui ne peuvent pas avoir de contact avec l'humain. Donc, on va éviter de leur donner un petit prénom...
Oui. D'accord.
À ce niveau-là. Ce sont des animaux sauvages qui sont stressés par la présence humaine. Donc, on ne va pas aller, je dirais, les coucouner.
D'accord. Ça n'empêche pas qu'on puisse quand même aller visiter ce centre ou non ? Ce n'est pas un lieu de visite, non,
c'est
on ne peut pas y aller.
C'est interdit au public.
C'est interdit au public.
C'est pour le bien-être des animaux.
D'accord. Mais je pense quand même que si on vous amène un animal, vous nous le faites visiter ou pas trop ? Pas trop.
Non.
Tout dans l'intérêt des animaux, donc.
Bah oui, pour éviter les dérangements. We'll be right back.
Donc, je trouve un animal sauvage blessé chez moi. Je vous appelle. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ?
Oui, on peut nous contacter au 05 65 59 09 87.
C'est le dimanche ? Personne ne travaille ou un jour férié, je peux quand même vous appeler ?
Ah si, on peut nous appeler et nous contacter tous les jours parce que les animaux ont besoin d'aide tous les jours.
Et là, vous venez avec votre voiture récupérer l'animal, c'est ça ?
Non.
Non, c'est pas ça.
Malheureusement, non. On est une petite association, on n'a aucun moyen financier pour se déplacer. On est déjà tous bénévoles sur place, donc on ne peut pas. Donc en fait, les gens qui découvrent les animaux nous les amènent directement.
Il faut faire l'effort de prendre sa voiture et de vous l'amener.
Voilà.
Enfin, c'est pas un effort, si on a envie que l'animal soit sauvé. Hein.
Alors après, on a des bénévoles qui parfois peuvent effectuer des morceaux de trajet, des bénévoles rapatrieurs. Du coup, on en a un petit peu sur tout le département, mais il arrive que les animaux passent par 3 ou 4 voitures avant d'arriver chez nous. Et donc ça peut me prendre plusieurs jours, des fois, avant qu'il arrive.
Et si c'est un dimanche, il y a toujours quelqu'un au centre ?
Oui.
C'est plus que du bénévolat, c'est du militantisme.
Mais ils mangent tous les jours.
Ils mangent tous les jours. Oui. C'est vraiment un sacerdoce pour les animaux blessés. Une fois que vous avez sauvé l'animal, que vous l'avez soigné, est-ce que tous les animaux sont relâchés ?
Malheureusement, non. On n'est pas des magiciens. On ne peut pas tous les sauver. Donc, il arrive qu'il y en ait qui meurent en soins. Dans les 24 premières heures, ça arrive quand même régulièrement. Il y en a aussi qui peuvent pas être sauvés et qui sont euthanasiés, puisque le but est de relâcher dans la nature. Donc un oiseau qui a été amputé d'une aile ou qui a perdu une patte, on peut pas le laisser repartir comme ça.
Et je sauve un oiseau, je trouve un oiseau malade sur le Cosmé-Jean, je vous le ramène, vous le soignez. Il faut que je vienne le récupérer pour qu'il soit relâché sur le Cosmé-Jean, ou alors comment ça se passe ?
Alors on propose aux découvreurs s'ils veulent le relâcher chez eux, de revenir le chercher.
Découvreur, c'est le nom que vous donnez à la personne qui vous amène un animal blessé.
Oui. Donc on leur propose, si ça les intéresse, de venir le récupérer. Nous, on les appelle quand il est prêt à être relâché, puis ils peuvent venir le récupérer pour le relâcher chez eux. Après, sinon, on relâche la plupart du temps autour de Millau, parce que ce qu'on disait, on a très peu de moyens pour se déplacer. Donc, à part s'il s'agit d'une espèce qui n'est pas présente sur le secteur, où là, on va se déplacer parce qu'on ne va pas la relâcher dans un milieu qui n'est pas adapté. Sinon, on relâche autour de Millau.
D'accord. Vous m'avez parlé d'acanthe. Qu'est-ce que c'est ce mot, acanthe ? Pour moi, ça fait référence à une fleur.
Ah, une plante. C'est le nom de la clinique vétérinaire.
D'accord,
de Millau,
qu'on a évoqué tout à l'heure.
Voilà.
D'accord. Et qui vous fait. Qui vous aide à soigner ces animaux. Quels ont été les animaux les plus extraordinaires, les plus remarquables que vous avez pu héberger et notamment sauver au centre ?
Alors, il y a déjà eu, par exemple, un aigle beauté une année.
Un aigle beauté, c'est quoi ?
Alors, c'est un rapace.
Oui.
Voilà.
Il s'appelle aigle beauté parce qu'il a des plumes qui vont jusqu'au bas des pattes.
D'accord. Et on en trouve ici, sur le Cos.
Il en passe, oui.
D'accord.
Voilà. Une année, il y a eu des œufs d'Eudicnem criard.
Des œufs ?
Aussi. Voilà, des œufs, vous avez.
Donc vous avez fait éclore ces œufs ?
Voilà. Voilà.
Sans la mère ?
Non, on les a fait éclore, on les a mis en incubateur, on les a élevés et ils ont été relâchés tous les deux.
D'accord.
Voilà. Ensuite, par exemple, plus récemment, de septembre à la semaine dernière, on avait un vautour percnoptère, donc, qui est l'un des vautours qui niche en France.
C'est assez rare ça, non ?
Alors, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le coin. Et en plus, c'est un oiseau migrateur. Donc, effectivement, ce jeune-là, on l'a gardé. Et puis, pas plus tard qu'hier, on a relâché un balbuzard pêcheur.
Ah, parlez-nous-en. Ça s'est passé comment, alors ?
C'est un super relâché.
C'est vrai, vous l'avez,
c'est magnifique.
Vous l'avez fait où, ce relâché ?
À Nantes, sur la commune de Nantes. À côté de la pisciculture. En fait, il avait été pris à la pisciculture, il s'était coincé dans les filets. En fait, il remonte de migration, là, en ce moment. Et donc, tous les ans, ils font une petite halte à la pisciculture de Nantes pour pêcher un poisson avant de continuer leur route vers le nord. Et cette année, celui-là n'a pas eu de chance, il s'est fait attraper. Mais on a pu le relâcher, là, donc c'était génial.
Ouais.
Ça faisait plus de 15 ans qu'il n'y en avait pas eu au centre, c'est vraiment.
Et quand vous faites ces. On dit comment, relâchage ?
Relâché.
Quand vous faites ces relâchés, il y a du monde qui peut venir y assister ou non ?
Oui.
Oui, bien
on
sûr.
Propose,
oui.
Et on le sait comment qu'il y a ces relâchés ?
Alors, du coup, nous, on peut faire un appel, par exemple, sur notre page Facebook, par exemple. Ce qu'on avait fait l'été dernier pour les relâcher de vautours fauves. Après, effectivement, c'est du bouche à oreille, souvent.
D'accord, faut le savoir. Ben, mais vraiment.
Pourra, ouais. Mais effectivement, nous, c'est notre. Entre guillemets, un projet d'en faire un petit peu plus, des relâchés en public pour que les gens puissent découvrir des animaux qu'ils n'ont pas forcément la chance de voir tous les jours.
Voilà, parce que là, on voit la finalité de votre action et c'est magnifique de voir repartir un animal comme ça.
Effectivement, les gens sont de plus en plus sensibilisés à la faune. Donc, quand on n'a pas, la chance de visiter un centre de sauvegarde, puisqu'effectivement, c'est interdit au public, c'est toujours intéressant de venir découvrir, justement, ces animaux qu'on a pu soigner et relâcher le jour de leur relâcher.
Voilà,
qu'ils puissent retrouver la liberté.
Et est-ce que vous avez des actions de sensibilisation auprès des scolaires? Est-ce que vous faites je ne sais pas, le castor, vous avez fait des actions spécifiques dessus?
Alors, oui, on fait quelques actions de suivi et de sensibilisation, en plus de la sauvegarde des animaux. Donc, on accueille tous les ans des classes spécialisées dans l'environnement, donc de l'école de Larocque et de Valrance. Et après, on fait des tenues de stand dans certaines...
Mais oui, dans certaines stands, enfin des expositions, des choses comme ça, des manifestations.
Ce genre de choses.
Mais vous n'intervenez pas à l'appel de professeurs de SVT dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, par exemple, non?
Mais malheureusement, on manque cruellement de temps et de personnes, parce que ça rajoute beaucoup de travail de préparer des animations en plus, quoi.
Puis tout ça, ça a besoin de financement. On l'a évoqué dans l'émission précédente, que c'est vraiment pas facile du tout. Donc, vous voulez absolument pas qu'on visite votre centre, parce que c'est pour l'avoir vu moi-même à diverses occasions, encore l'an passé, c'est très parlant sur sur vos actions et surtout l'amour que vous portez à ces animaux, quoi. Et vraiment que ça soit du grand rapace au petit hérisson, quoi.
Ah oui, mais c'est pour ça aussi que les centres de sauvegarde ont du mal à financer leurs actions, c'est qu'il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent en faisant ce qu'on fait, quoi. C'est pas rentable comme activité.
De faire visiter un centre?
De sauver des animaux.
Ah oui, c'est pas rentable.
Parce qu'effectivement, si on pouvait faire visiter, ça pourrait rapporter de l'argent, mais c'est pas possible, vu le but.
Le but, c'est le bien-être d'un animal. Quand ils ne sont pas habitués à l'humain, on ne peut pas avoir effectivement constamment des gens qui passent et qui...
Des gens qui viennent sans arrêt.
Qui parlent à côté, qui les stressent, alors que c'est le genre de choses dont ils ne sont pas habitués. Et même nous, on évite au maximum de... On fait le nourrissage et puis...
Vous ne rentrez plus dans la cage après?
Non.
D'accord, ça reste vraiment...
On limite vraiment les contacts.
Tout au bénéfice de l'animal. Et pas forcément au bénéfice de l'argent.
Heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait vivre la même vie, toujours pour ces gens-là. Cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant « Oh les gens bienheureux !» Tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol en forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, lui d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Est-ce que vous accueillez des stagiaires, parfois?
Alors oui.
Dans vos actions de sensibilisation?
Oui, oui, on accueille pas mal de stagiaires tous les ans, entre 10 et 20. Donc c'est souvent des jeunes qui sont dans des formations spécialisées dans l'environnement, donc des bacs GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune, et des BTS GPN, gestion et protection de la nature. Et donc, ils nous aident à faire beaucoup d'actions de suivi sur le terrain, qu'on ne pourrait pas faire s'ils n'étaient pas là. Donc depuis plusieurs années, on fait le suivi de la reproduction des busards, Cendré et Saint-Martin, et la protection du coup des nids ou la récupération des œufs qu'on incube après au centre et qu'on élève pour les relâcher. Et aussi depuis 3-4 ans, le comptage des familles de castors sur le Tarn et ses affluents. Et depuis cette année, le suivi des jeunes chouettes chevêches qui sont du coup amenés au centre à tort et qui sont élevées chez nous. Donc depuis cet été, elles sont aussi suivies pour voir l'efficacité de nos actions.
Et vous êtes combien pour gérer tout ça, puisque vous parliez de bénévoles? Parce que même le président est bénévole. Tout le monde est bénévole.
Tout le monde est bénévole, oui.
Et comment... Enfin, vous êtes nombreux?
Alors en fait, on va avoir approximativement 30-40 bénévoles en tout.
Présents sur la structure.
Voilà, présents sur la structure. C'est vrai qu'après tous les jours, on est trois personnes. Voilà. Après, dans nos bénévoles, on va compter nos transporteurs, c'est-à-dire nos bénévoles qui font qui acheminent les animaux vers le centre depuis le découvreur jusqu'à nous. Les découvreurs eux-mêmes quand ils choisissent de faire le trajet. Donc c'est vrai qu'environ bénévoles adhérents, on va avoir presque... une fourchette, 500 personnes, à peu près.
500, et quand vous parliez tout à l'heure de comptage des castors sur le Tarn, là, il vous faut énormément de monde. Enfin, vous avez des relais dans les petits villages, dans les...
Alors, ce sont surtout nos stagiaires qui, dans leur période de stage, font une certaine distance. Voilà, donc ça va leur servir, eux, de sujet de stage, et nous, à recenser sur cette distance-là combien on a de familles de castors.
Et ces bénévoles adhèrent à la structure quand même, non? Parce qu'il faut que la structure ait des moyens.
Ceux qui le souhaitent adhèrent.
D'accord.
Voilà.
Et la personne qui vient amener un animal, c'est entièrement gratuit. Vous ne lui demandez même pas un droit d'adhésion.
Non.
Ben bravo. Bravo, vraiment, c'est un bel acte. Et si on n'a pas de compétences dans le soin aux animaux, et qu'on a envie de vous aider, est-ce qu'on peut amener son savoir-faire? Et de quel savoir-faire vous avez besoin?
Alors, oui, effectivement, venir nous aider, même si on ne touche pas aux animaux, c'est tout à fait possible. Bon, déjà, si on souhaite apprendre des choses, on peut les donner notre savoir vite fait. Donc, les gens pourront apprendre à s'occuper d'un animal s'ils le souhaitent. Sinon, effectivement, on a besoin de monde pour refaire les structures, recoudre des volières, ce genre de choses. Donc, il y aura effectivement...
Il y a du bricolage, de la maçonnerie, voilà. Et puis dans l'administratif aussi, on peut avoir besoin d'aide,
voilà.
Un peu à tous les niveaux.
Même quelqu'un qui a des compétences en Internet, en informatique, peut venir vous aider.
Parce que nous, on fait de tout, finalement, donc on a besoin de gens pour tout.
Et à quel moment de l'année vous préférez avoir du monde pour vous aider?
Eh ben alors ça dépend pour quoi. Évidemment, c'est en été qu'on a besoin le plus d'aide parce qu'on fait du nourrissage toute la journée. Des fois, on est 6 ou 8 toute la journée et on fait que ça toute la journée, voilà. Après, en hiver, on a aussi besoin d'aide, mais du coup, plutôt pour l'entretien, la rénovation ou la paperasse.
Donc, on peut se rendre chez vous et dire, voilà, je viens vous aider, j'y connais rien dans les animaux, mais je viens vous aider.
Voilà.
Et on est bien accueillis. Pour se rendre chez vous, c'est pas facile. Hein.
Non.
Vous pouvez nous dire en gros un petit peu comment ça se passe, hein. Comment on fait pour trouver le centre? Il faut aller
faut
à
nous
Millau,
téléphoner.
Faut téléphoner.
Voilà, nous appeler.
Après,
effectivement, si on a un GPS, il le trouve très bien. Il trouve très bien l'adresse. Donc oui, voilà.
Et l'adresse, on peut la voir quand même?
L'adresse, c'est Impasse de la Patte d'Oie.
D'accord.
Donc c'est...
pas loin du camping de Millau.
Voilà, j'allais dire.
Hein, très très bien. Et est-ce que, pour finir, vous auriez une belle histoire qui vous est propre à vous, Cassandra, ou à vous, Hélène, sur un animal que vous avez recueilli, que vous avez, avec lequel vous avez eu un lien privilégié, une attache?
Y a une année, on a reçu un castor qui s'était fait renverser par une voiture. Donc on l'avait amené chez le vétérinaire, parce que c'est très compliqué de manipuler un castor blessé. Donc il faut l'anesthésier, parce que c'est quand même un peu dangereux. Et en fait, on a fait des radios pour voir ce qu'il y avait. Et à la radio, on a vu qu'en fait, elle avait deux petits. Donc c'était assez incroyable comme histoire. Malheureusement, les deux jeunes sont morts, mais Dame Castor a pu être relâchée.
Et vous avez pu la relâcher. Alors c'est étonnant, je pensais que les castors vivaient toujours en bordure de rivière ou dans les rivières. Et là, vous parlez d'un castor qui a été renversé par une voiture.
Et oui, y a des petits cours d'eau, il y a des routes et des ponts qui traversent des fois. Donc ça arrive qu'ils passent sur les routes. Hein.
Et vous, Cassandra, vous avez quelque chose qui...
Alors effectivement, moi j'aurais peut-être moins d'histoire parce que je suis au centre depuis moins longtemps. Moi, ce qui m'a le particulièrement touchée, c'est effectivement l'année dernière où j'ai eu la chance de m'occuper de trois écureuils, trois jeunes écureuils en même temps. Donc effectivement, c'était assez... il faut avoir du courage aussi, parce que les mammifères, c'est du nourrissage pendant la nuit et pendant la journée. Donc c'était vraiment toutes les 3-4 heures.
Pendant la nuit.
Voilà, et pendant 2 à 3 semaines. Le temps qu'eux apprennent à manger seuls et qu'on puisse après les relâcher.
Et donc, à 3-4 heures du matin, il y avait quelqu'un pour les nourrir?
Ah bah c'était moi, je l'ai récupéré, puis je mettais le réveil pour pouvoir me réveiller.
Est-ce que vous pouvez nous dire à nos auditeurs, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie, personnellement, de vous investir dans ce centre? Parce qu'apparemment, vous avez l'air très investi. Quelle était la motivation première?
Personnellement,
c'est pas l'argent, c'est... déjà.
Non, on ne fait pas ce métier-là pour l'argent. Personnellement, j'ai toujours aimé les animaux. Donc c'est après ma majorité que j'ai découvert les centres de sauvegarde. Et c'est vrai que Millau a été un coup de cœur. Par effectivement la biodiversité qu'il y a à Millau. Donc tous les vautours, les circaètes. Vraiment, c'est assez exceptionnel.
D'accord. Et Hélène?
Moi, c'est après avoir été stagiaire au centre de Millau. Je crois que je suis tombée amoureuse de ce que faisait Jean-Claude.
Jean-Claude Ostruy, donc, qui est le président fondateur de ce centre, qu'on a reçu le mois dernier.
Oui.
Et qui fait vraiment quelque chose d'incroyable.
Il m'a transmis sa passion.
C'est ça, effectivement. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, donc c'est très inspirant. Ça donne envie de faire de grandes choses aussi.
D'accord. Une dernière question, j'espère qu'elle ne vous dérangera pas, mais on parle beaucoup de loups dans le sud d'Aveyron. Vous n'avez jamais eu de loups à soigner?
Non. Non.
Pourquoi les gens les abattent et vous ne les amènent pas?
On ne sait pas, on en a jamais entendu parler en tout cas.
D'accord, c'est un animal remarquable pour avoir travaillé sur le loup personnellement.
C'est un animal qui mérite d'être étudié. Ouais.
Tout à fait. Donc le centre de sauvegarde de la faune sauvage Cossenard, on peut le contacter sur internet, on sait comment s'y rendre avec un GPS, hein, rue de la Patte d'Oie, mais sinon vous avez aussi un compte Facebook, Twitter, Instagram?
Alors voilà, non, on n'a pas Twitter et Instagram.
D'accord.
On n'a que notre page Facebook, sur laquelle on poste effectivement des actualités le plus souvent, mais par exemple notre relâché de Balbuzard hier. Dès que j'ai 5 minutes ce soir ou ce week-end, je posterai effectivement la vidéo. Comme ça, même si les gens ne sont pas venus directement ou tout simplement s'ils ne le savaient pas, au moins ils verront l'animal partir parce qu'on a toute la vidéo où l'animal C'est renvolé.
Ce qui serait bien pour une prochaine émission, c'est qu'on puisse, vous puissiez nous inviter et venir faire du son quand vous relâchez un animal. Ça doit être bien. Et le vivre au moins sur les ondes.
D'accord.
Voilà.
On ne savait pas que ça se faisait.
On n'entend pas grand-chose. Hein.
Non, mais non. Ça ne fait rien. Mais on peut avoir vos impressions. Et puis voilà, quoi,
pour nous, c'est surtout le clic des appareils photo qu'on entend.
Oui, mais on entend clic, clic.
On essaye toujours d'être calme. On laisse l'oiseau faire son truc. Mais nous, on photographie bien. Effectivement.
D'accord. On vous retrouve le mois prochain. Est-ce qu'il y a un thème déjà de prévu?
Pas spécialement.
Bon, on a plusieurs thèmes, on ne sait pas encore lequel on va.
Voilà, comme on travaille sur les busards, les castors, les chevêches, donc voilà. Ce sera peut-être l'un de ceux-là.
Eh bien, un grand merci Hélène et un grand merci Cassandra et au mois prochain.
Merci à vous.
Au mois prochain.